Les informations, Noëlla Lusituka Bambi.
Félix Tshisekedi et Paul Kagame réaffirment leur engagement pour la paix. Ils ont eu un tête-à-tête hier à Doha au Qatar en présence de l'émir tchèque Tamim bin Ahmad Al Thani. Les échanges ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Les travaux de construction des infrastructures de base ont été lancés lundi à Madimba au Congo central. Ces travaux bénéficient du financement du gouvernement congolais pour une durée de 3 mois. Trésor Kibangula est l'invité de ce journal. L'analyste politique et directeur du pilier politique à l'Institut de recherche Ebouteli va faire une analyse sur la crise sécuritaire en RDC. Bonjour à tous. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés hier mardi à Doha au Qatar dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir tchèque Tamim bin Ahmad Al Thani. Selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar, les discussions ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC. Les chefs d'État ont salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celles du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné Luanda-Nairobi, affirme la déclaration. S'agissant des négociations directes au gouvernement congolais M23, le ministère des Affaires étrangères de l'Angola indique que c'est pour des raisons et circonstances d'une force majeure qu'il n'a pas été possible de réaliser le mardi 18 mars à Luanda la rencontre prévue entre le gouvernement de la RDC et le M23. C'est ce qu'indique un bref communiqué de la présidence angolaise publié hier mardi dans la soirée. Par ailleurs, le gouvernement de la République d'Angola en qualité de médiateur dit continuer à fournir tous les efforts pour que la réunion ait lieu à temps, réaffirmant que le dialogue reste la seule solution durable pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire préoccupante depuis hier matin dans plusieurs agglomérations du territoire de Djougou en Ituri. Et pour cause, le passage quelque peu forcé tôt le matin à la barrière de Fataki Centre des militaires de l'armée ougandaise en provenance de Mahagi. Des sources sécuritaires locales font même état d'un échange de tirs entre ces militaires ougandais et des miliciens de la Codeco à Fataki. Et ce que ne confirme pas l'administrateur du territoire de Djougou. On observe cependant un mouvement massif des populations fuyant vers des entités périphérique. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Aux environs des 4 heures ce mardi matin, un convoi des militaires ougandais a forcé la barrière de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri, DGRPI, à Fataki, un centre commercial situé à 80 km de la ville de Bunia. Certaines sources ont affirmé que des miliciens de la Codeco ont par exemple tiré des coups de feu pour protester contre l'entrée des UPDF dans les territoires des Djougou. Par ailleurs, un mouvement des populations est observé à Fataki, Djaïba, Boulé, Bakalou et Djougou Centre sur la RN27, où le trafic est momentanément coupé. Contacté, l'administrateur du territoire de Djougou ne confirme pas cet affrontement entre les UPDF et la milice Codeco. Le colonel Ruffin Mapela.
Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de la mutualisation qui a été déjà décidée au niveau stratégique. Je vous rassure, il n'y a eu absolument rien. Les UPDF ne sont pas venus pour tuer la population congolaise. Les UPDF ne sont pas venus pour s'affronter avec des groupes armés.
C'est depuis environ un mois que l'armée ougandaise a renforcé ses effectifs dans plusieurs territoires de l'Ituri. Selon les autorités de la province, c'est dans le cadre de la mutualisation des forces avec les FARDC pour mettre fin à l'activisme des groupes armés en Ituri, dont les ADEF. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Un appel à la paix et à l'unité nationale est lancé par la Commission Justice, Paix, Droits humains, Démocratie et Ressources naturelles de la communauté musulmane au Maniema. Dans son communiqué du 17 mars, son coordonnateur invite toutes les parties à privilégier des discussions constructives pour arriver à un consensus. Tchèque Akanda Bwamwini, coordonnateur de la CJPDRN, est au micro de Florence Kizalunga.
Dans la situation actuelle que connaît la République démocratique du Congo, la Comima rappelle que la violence ne mène pas à une solution durable. Elle alimente au contraire le cycle de souffrance et de division. La Comima appelle ainsi le peuple congolais individuellement et collectivement à faire preuve de responsabilité pour bâtir une nation fondée sur les principes de respect, de tolérance et de dialogue. La Comima prend acte de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée à New York le 21 février 2025, du communiqué de la réunion extraordinaire de SADC du 13 mars 2025 et du communiqué des présidents de la Conférence épiscopale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo SCC. La Comima appelle à cet effet toutes les parties prenantes à privilégier des discussions constructives pour parvenir à un consensus. La paix n'est pas un simple souhait, mais naturellement un impératif pour la garantie du bien-être du peuple congolais et son progrès.
Le ministère congolais des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité s'engage à déléguer les assistants sociaux dans les couloirs humanitaires dans les zones des conflits armés pour accompagner toutes les personnes et groupes vulnérables afin de les orienter vers les services compétents pour leur prise en charge. Nathalie Aziza Mounana annonce cette action en marge de la commémoration hier de la Journée mondiale du travail social. En RDC, elle est commémorée sous le thème « La solidarité intergénérationnelle des Congolais en temps de guerre ». D'après elle, le travail social en temps de guerre, tout comme en temps normal, est marqué par des ajustements significatifs et des impacts durables. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
Je tiens à saluer la promptitude de l'ensemble des acteurs sociaux œuvrant en République démocratique du Congo pour leur soutien aux efforts d'accompagnement des vulnérables, particulièrement en cette période de guerre. Lorsque les enfants, les jeunes et les personnes âgées sont exterminés tous les jours, nous ne pouvons rester silencieux. La problématique des déplacés de guerre, de victimes des violences et des viols et d'autres abus commis dans la guerre à l'Est est certes prioritaire. Mais n'oublions pas le lot des différents groupes vulnérables existants, à savoir les enfants de la rue, les personnes vivant avec handicap, les femmes en difficulté, les malades vulnérables, les coulonnas ainsi que les personnes âgées marginalisées. En cette journée mondiale du travail social, je souhaite conclure en saluant les professionnels du travail social et louer votre professionnalisme et votre engagement.
Retour en Ituri. Mener des activités agricoles dans certaines localités du territoire de Djougou reste impossible à cause de la présence des hommes armés. Et pourtant, certains habitants s'y adonnent tout de même, parfois au péril de leur vie. D'après eux, l'assistance humanitaire devient de plus en plus rare, ce qui les contraint à continuer à cultiver la terre en vue de se procurer de quoi nourrir leur famille. Jean-Claude Lokidi l'a rencontré, certains parmi eux.
Gina, entité coutumière située à 45 km de Bounia, dispose d'un sol fertile. On y produit du manioc, du haricot, de la banane ou encore des pommes de terre. David Mugisa est un enseignant reconverti en agriculteur et dont les raisons qui le poussent à s'adonner à l'agriculture malgré l'insécurité.
Dans les milieux ici, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire à part cette économie. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est ce qui nous pousse à chercher de la vie.
Les premières victimes, selon ce civil local, ce sont des femmes. Il y a près d'une semaine, trois femmes parties chercher des vivres dans leurs champs abandonnés ont été tuées par des hommes armés. Comment nourrir nos enfants dans un contexte où nous ne recevons plus de l'aide, s'interroge Chantal Djangoussi, mère au foyer.
Ce jour-là, nous avons pleuré. Nous nous sommes dit, nous n'avons même pas d'armes. Si nous n'allons pas chercher de vivre, les enfants ne vont pas manger. Depuis ce jour, il y a carence de produits vivriers sur les marchés et l'argent ne circule plus. Il y a carence des conseils de manioc. Or, ces maniocs proviennent justement des champs.
Des habitants interrogés souhaitent ardemment la pacification totale de ce territoire pour que Djougou reprenne son statut de pourvoyeur de l'Ituri et d'autres provinces en produits vivriers.
Lancement lundi à Kisantu dans le territoire de Madimba au Congo central des travaux de construction des infrastructures de base IDB. Ces travaux sont effectués dans le cadre du projet STEP et bénéficient du financement du gouvernement congolais pour une durée de 3 mois. C'est le coordonnateur adjoint de la cellule de suivi des projets et programmes qui a lancé ces travaux en présence de plusieurs personnalités. Nana Plurich Mambou.
À travers ces projets, plusieurs infrastructures seront construites, dont les centres de santé de Madimba et de Kikonka. L'Institut Nyanga, l'école primaire de Kikonka 1 et l'Institut Madimba seront aussi réhabilités de fond en comble dans 3 mois. D'après le coordinateur adjoint de la cellule de suivi des projets et programmation CSPP, M. Yves Mafongo, le projet STEP a été conçu pour stabiliser et renforcer la dynamique sociale et communautaire en vue d'un développement durable dans la partie est de la RDC. Après avoir réalisé le bon résultat au niveau de la partie est, le comité de pilotage de ces projets a jugé impérieux d'étendre les activités au niveau de la partie ouest en intégrant notamment les provinces du Kwango et du Congo central. Avec un financement global évalué autour de 824 millions, 12 infrastructures de base dans les secteurs de la santé et de l'éducation seront construites au Congo central et au Kwango afin de répondre aux priorités de développement de la RDC, a indiqué le coordinateur adjoint de la cellule de suivi des projets et programmes, Yves Mafongo. Matadi, Nana Plirich Mambu, Radio Okapi.
Lancement hier de la campagne de distribution en masse des médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées. Cela s'est passé à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Il s'agit des maladies comme les vers intestinaux, l'oncocercose, la bilharziose et le schistosomiase. Cette campagne, qui se fera par le porte-à-porte, vise toute la population, excepté les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. Il est important de prévenir ces maladies parce que très souvent ignorées et mal soignées, comme le dit ici Prisca Kamala, conseillère du gouverneur en charge de santé et éducation. Elle est au micro de Guylaine Kassassia.
L'Organisation mondiale de la santé définit les maladies tropicales négligées comme celles affectant presque exclusivement les populations pauvres dans les régions rurales et les quartiers urbains défavorisés des pays à faible revenu. Ces maladies sont souvent ignorées, mal documentées et silencieuses. Voilà pourquoi la province du Nord Kivu, à travers le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées, organise la campagne des distributions des médicaments dans cette lutte et le traitement des maladies tropicales négligées ci-après. L'oncocercose, la filariose, les schistosomiases et les vers intestinaux. Pour l'élimination de ces maladies, j'invite toute la population, excepté les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans, d'adhérer massivement à cette campagne en prenant chacun ces médicaments auprès des distributeurs communautaires qui passeront de porte à porte et dans les écoles dès aujourd'hui pour distribuer gratuitement ces médicaments selon les tranches d'âge.
Dans le Maniema, le sénateur Salomon Idi Kalonda Dela vaut le secours des musulmans pendant cette période de Ramadan. Il a remis quantité importante des sacs de sucre, des laits et de farine de maïs pour leur permettre de bien terminer ce mois. L'assistance du sénateur Salomon Kalonda intervient au moment où la ville de Kindu peine à se ravitailler en denrées alimentaires à la suite de la fermeture de l'aéroport de Goma. Florence Kiza.
Dans plusieurs mosquées où ces dons de Salomon a été remis, c'était une grande satisfaction. Le responsable de la mosquée centrale fait savoir qu'ils étaient déjà en rupture des stocks chez Id Omari.
Non, c'est un remerciement au sénateur Monsieur Idi Kalonda Dela pour avoir une fois de plus pensé à nous pendant les mois sacrés de Ramadan. C'est très nécessaire, nous étions à court des stocks. Avec cette aide, ça va nous permettre de mieux clôturer les mois sacrés de Ramadan. Cette aide va aussi appuyer nos frères prisonniers parce que la nourriture que nous préparons ici, il y a une partie que nous envoyons aux musulmans qui sont à la prison centrale.
Le représentant de Salomon, le député Abel Ichoma, a laissé ses messages de son leader aux musulmans.
Kindu est entièrement coupé de la ville de Goma qui nous approvisionne et sur le marché, les prix augmentent. Ce qui fait que la plupart des habitants et particulièrement les musulmans, n'ont pas le moyen de pouvoir s'approvisionner. L'honorable Salomon Idi Kalonda invite tous les musulmans en ce mois sacré de Ramadan de pouvoir prendre un petit moment pour prier pour la paix et la stabilité dans notre pays.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La gendarmerie sénégalaise a annoncé avoir interpellé 59 personnes candidats à l'immigration irrégulière hier dans un village sur la côte atlantique, portant à plus de 400 le nombre de personnes arrêtées depuis vendredi. Ces personnes arrêtées venaient de toute la sous-région, majoritairement des Guinéens, Gambiens, Ivoiriens et Sierra Leone. Dans l'espoir d'atteindre l'Europe, de plus en plus de personnes migrantes, en majorité des jeunes sans emploi, en quête d'une vie meilleure, empruntent la dangereuse route maritime pour rejoindre les Canaries depuis les côtes ouest africaines. Plus de 10 400 migrants sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, selon l'ONG Caminando Fronteras.
L'invité
de ce journal, c'est Trésor Kibangula. Il est analyste politique et directeur du pilier politique à l'Institut de recherche Ebouteli. Il fait une analyse sur l'échec des négociations de Luanda et sur la suite des événements sur la crise sécuritaire en RDC. Trésor Kibangula s'entretient avec Grace Amzati.
Trésor Kibangula, bonjour.
Bonjour.
Le M23 s'est retiré des négociations qui étaient prévues à Luanda en Angola. Quelle analyse faites-vous de cette décision des dernières minutes de la rébellion?
C'était un revirement qui n'est pas totalement surprenant parce que officiellement, c'est vrai, le M23 justifie son retrait par les sanctions européennes qui sont tombées la veille de ces rendez-vous de Luanda et qui ont visé plusieurs de ses responsables ainsi que des cadres militaires rwandais. Mais en réalité, lorsqu'on regarde de près, cela traduit surtout une position des forces parce que le M23 estime qu'il n'a aucun intérêt aujourd'hui à s'engager dans des négociations sans garantie solide sur ses revendications, tant que la situation militaire lui sera favorable sur le terrain. Il peut donc se contenter et se permettre d'attendre et de faire monter les enchères. Je pense qu'il faut aussi noter que cette annulation, vous avez dit, de dernière minute, est une manière d'exposer les contradictions de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis des mois, le président de la République, Félix Tshisekedi, refusait catégoriquement toute négociation directe avec les M23. Mais aujourd'hui, avec la pression diplomatique sur Kigali, mais aussi cette pression diplomatique qui continuait à dire au gouvernement congolais d'ouvrir un espace de discussion, le président Tshisekedi a dû revoir sa posture. Les M23 profitent donc de cette volte-face de Kinshasa pour montrer que c'est le gouvernement qui court après les négociations et non l'inverse.
Et malgré ces refus par les M23, le gouvernement congolais a confirmé sa participation et d'ailleurs sa délégation s'est même rendue à Luanda, sachant que l'autre partie s'était déjà retirée. Comment expliquez-vous cette attitude de Kinshasa?
Oui, c'est une position très délicate parce que le pouvoir a longtemps martelé, comme je disais, qu'il ne négocierait pas avec les rebelles. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer que Kinshasa n'est pas l'obstacle à la paix et que c'est l'autre partie qui refuse de venir discuter. Donc d'abord, c'est une question d'image pour Kinshasa. Ensuite, je pense aussi que c'est un pari tactique parce que en restant dans les processus, le gouvernement congolais garde une porte ouverte tout en laissant la responsabilité de l'échec de cette discussion de Luanda au M23. La communauté internationale va voir encore une fois, comme en décembre, que c'est Kigali qui n'est pas venu. Le président rwandais n'était pas venu au rendez-vous de décembre. Et cette fois-ci, le rendez-vous de mars, c'est le M23 qui n'est pas venu.
Et comment entrevoyez-vous la suite des événements?
Alors, à court terme, je pense qu'on risque de voir une recrudescence des tensions. On a vu que des combats ont rapidement repris. Même le cessez-le-feu n'a pas tenu. Le M23, je pense qu'il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs. Et du côté congolais, l'armée cherche à stabiliser ses positions, mais on constate aussi sur terrain qu'elle n'a pas encore réussi à reprendre l'initiative militaire. Ce qui sera intéressant à surveiller, je pense, c'est surtout le côté diplomatique. Qu'est-ce qu'il va faire l'Angola? Est-ce qu'elle va tenter de sauver cette initiative de Luanda en relançant des consultations avec les parties prenantes? Mais je pense qu'aussi, nous sommes dans un engrenage de médiation avec ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle processus fusionné et ACFADEC. Et cette initiative parallèle de Luanda, est-ce que chaque acteur de la région croit à un processus donné? Et je pense qu'il y a quelque chose à éclaircir là-dessus. La crise, la sortie des crises à la République démocratique du Congo mérite un peu plus de clarté pour s'en sortir.
Et selon vous, quelle peut être aujourd'hui la perception du président de l'Union africaine désigné médiateur face à ces blocages?
Alors, c'est le président angolais Lorenzo. Je pense qu'aujourd'hui, il se trouve dans une situation un peu de fragilité. Il a parié sur cette initiative de Luanda pour forcer un peu la main aux partis en les ramenant à la table des négociations. On pensait qu'il avait réussi, mais à la dernière minute, le M23 lui a posé ses refus nets. Donc je pense que l'Angola aujourd'hui et son président risquent donc d'être perçus comme des acteurs un peu isolés dans ces processus, parce que lorsqu'on regarde le communiqué de la réunion des ministres des Affaires étrangères étrangères de l'EAC et SADC à Harare hier, on remarque qu'on a beaucoup plus mis en avant ou pointé un chevauchement des médiations et des conflits de compétences. Et c'est là, je pense, affaibli le président Lorenzo et réduit même les marges de manœuvre de l'initiative de l'Angola. Alors, si le médiateur angolais veut encore peser, il devra repositionner son initiative, essayer de convaincre Kinshasa et Kigali d'accepter un cadre plus inclusif, sans quoi son rôle risque d'être marginalisé.
Trésor Kibangula, je vous remercie.